Bonjour à tous et bienvenue à notre ami qui nous a rejoint en cours de route. Mais voilà, notre église est accueillante et nous sommes honorés de ta présence. Bienvenue. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Je pense que la plupart de vous ont déjà entendu ou récité à haute voix ce texte auquel se réfèrent de très nombreux chrétiens. Ce texte a un nom, comment on l'appelle ? Le symbole de Nicée-Constantinople, ouais, au 4e siècle après Jésus-Christ. Nicée et Constantinople, c'est des villes en Turquie, donc l'Asie mineure, donc les premières régions qui ont été christianisées, si on peut dire, après la Palestine, quoi. On l'appelle aussi le credo, je crois, mais il y a des nuances, paraît-il. Et on l'appelle aussi le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres. Du temps où on fréquentait l'église protestante, on récitait souvent le symbole des apôtres. Et le symbole des apôtres, c'est pas simplement parce qu'il y a, on le raconte phrase par phrase, et certaines traditions donnent une phrase à chacun. On commence toujours par Pierre, qui est apparemment le chef des apôtres, et on décline sur tout le monde, y compris le remplaçant de Judas qui a été nommé pour le remplacer, par les apôtres. Depuis quelques mois, Sophie et moi-même allons une fois par mois au Binnenberg pour une formation autour de textes anciens en rapport avec la confession de foi de nos églises adoptée il y a une dizaine d'années. Ce symbole des apôtres fait partie des textes auxquels se réfèrent les premiers anabaptistes sans problème. L'ensemble de ces affirmations de foi ont un fondement biblique. Les nouveaux baptisés, depuis le 1er siècle, se réfèrent à cette confession et deviennent ainsi membres de l'Église qui pourrait ou devrait devenir universelle. C'est un texte qui rassemble les chrétiens et en même temps c'est un texte qui sépare lorsqu'on entre dans les détails. C'est en fait un texte polémique, en particulier contre une tendance qui cherche à minimiser la divinité de Jésus. Ce texte rassemble tous les chrétiens qui reconnaissent que Dieu est le Créateur, que Jésus son Fils a partagé notre humanité sur terre au 1er siècle de notre ère, et que le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, répandu lors de la Pentecôte après l'ascension de Jésus, est toujours d'actualité. Nous sommes à la veille de la semaine pour la prière de l'unité des chrétiens. Il est bon de se rappeler ce qui nous rassemble et nous unit, lorsque nous sommes en relation avec nos frères et sœurs, protestants, catholiques et même orthodoxes, présents avec nous sur ce territoire. Ce texte rassemble, même si nous frémissons à l'évocation de la Vierge Marie, mais c'est la réalité attestée dans les évangiles de Matthieu et de Luc, et que la Sainte Église catholique se remplace par universelle dans la version protestante. Grosso modo, nous pouvons également en faire notre credo, ce que je crois, de manière synthétique et résumée. Ce qui nous place dans la chrétienté depuis l'origine des apôtres, qui ont obéi à l'ordre de Jésus en Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Notre Dieu est trinitaire, ou triunitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes dans la lignée des monothéismes trinitaires, un seul Dieu, mais avec trois composantes, ce qui nous éloigne de deux autres religions monothéistes, le judaïsme et les musulmans. Voilà. Je crois que l'affirmation « je crois en » n'est pas équivalent à « je crois que ». « Je crois que » n'implique pas, parce que quand je dis « je crois qu'il va faire beau demain » ne m'engage pas à grand-chose. Par contre, « je crois en Dieu » sous-entend premièrement que pour moi, Dieu existe, ce qui n'est pas évident pour tout un chacun. L'Ecclésiaste affirme, chapitre 3, verset 11, « Dieu fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur des humains, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » L'œuvre de Dieu, du commencement jusqu'à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible nous révèle qui Dieu est, même si au fond de notre humanité, dans toutes les cultures et traditions religieuses sur toute la terre, les humains perçoivent qu'au-delà de leur petite personne, de leur petite personnalité, il existe un univers qui nous dépasse. Il n'y a qu'en Occident, et à l'exception des pharaons et empereurs romains, que des individus se prennent pour Dieu et se suffisent à eux-mêmes. Les différentes divinités de par le monde sont diverses et variées. L'exploitation de la crédulité des hommes et des femmes sert à entretenir toutes sortes de courants dits religieux ou spirituels qui prospèrent. À leur tête, des dirigeants matériellement bien pourvus et un pouvoir bien établi. Ils n'hésitent pas à exercer une emprise sur leurs sympathisants en les maintenant dans la dépendance et en suscitant une anxiété morbide, c'est-à-dire qui rend malade, en faisant miroiter un but spirituel qui ne peut être atteint. Le Dieu de la Bible se révèle dans les textes bibliques, il n'est pas de cette nature. Lorsque j'affirme que je crois en Dieu, je me réfère au Dieu créateur du ciel et de la terre que nous habitons. Le texte de la confession de foi de nos églises est écrit pour le collectif et non pas l'individuel. Le « je » devient « nous croyons en un seul Dieu ». Nous croyons que Dieu a créé toutes choses visibles et invisibles. Nous n'allons pas nous étendre ce matin sur les attributs du Dieu en lequel nous croyons. Mais nous nous rappelons que Dieu a créé avec sa parole la terre que nous habitons sans violence, petit à petit. Le chaos, le néant a été ordonné. La lumière est séparée des ténèbres, le ciel apparaît, les eaux se rassemblent, la terre ferme apparaît, l'herbe, les fruits se répandent et se reproduisent. Le jour, la nuit, les saisons deviennent immuables. Le monde vivant, animal d'abord aquatique, puis terrestre apparaît. Et finalement, l'espèce humaine, créée à l'image de Dieu lui-même, fait son apparition. Alors que tout ce qui fonctionne déjà de manière harmonieuse et paisible. Alors que tout ce qui précède fonctionne déjà de manière harmonieuse et paisible. Et ce Dieu en qui nous croyons constate que tout cela était très bon, harmonieux, cohérent, plein de sens, juste pour la beauté de la vie qui se perpétue. Ce qui a compliqué la situation, c'est que cet humain, créé à l'image de Dieu, n'a pas réussi à obéir, à respecter les consignes de son créateur. L'humain s'est rebellé lors de cet événement que nous appelons la chute, et sa situation terrestre s'est nettement dégradée. L'homme est devenu ce petit bipède nuisible qui prolifère à la surface de la terre et qui met en danger la création. Vous voulez que je répète?
Non, c'est bon.
Bande de bipèdes visibles. Non, excusez. Moi, le premier. Mais dès l'origine, le Dieu révélé dans la Bible et en lequel nous croyons, malgré sa colère au moment du déluge, est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui fait alliance avec les humains, un Dieu qui cherche des individus pour former un peuple qui devient un canal pour déverser ses bontés, ses bénédictions pour toutes les nations de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, le Messie annoncé par les prophètes d'Israël, le roi attendu qui ouvre un chemin vers le salut à chaque humain, génération après génération. Le symbole des apôtres atteste de la réalité historique de son existence. Il atteste du mystère de sa naissance que nous venons juste de commémorer à Noël. Il atteste de son humanité puisqu'il a souffert jusqu'à la mort simplement par obéissance à son Père. Lors de l'imminence de son arrestation, Jésus prie en Matthieu 26, verset 42 « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » L'angoisse devant l'horreur scandaleuse de la crucifixion rend Jésus complètement humain, bien qu'il fût sans péché. Sa résurrection, le troisième jour après sa mise au tombeau, le rend complètement divin. Oui, Jésus est Dieu, cela fait partie de ce que nous croyons. Jésus nous a rejoints dans notre humanité, il a appelé les disciples pour le suivre et pour vivre le royaume de Dieu. Son enseignement, relaté par les quatre évangiles, nous éclaire sur le projet de Dieu de rétablissement, de restauration de sa création. L'enseignement de Jésus nous présente le royaume de Dieu que nous appelons à venir lorsque nous prions comme nous l'avons fait, que ton règne vienne. Jésus a enseigné la sobriété, la non-violence, le pardon, l'amour. Il a réussi à joindre ses actes à ses paroles en permettant la guérison. Jésus est allé au bout de la souffrance, du sacrifice de sa personne, pour que nous ayons la vie et même la vie pour l'éternité lorsque notre vie terrestre arrivera à son terme. Par la foi, lorsque nous reconnaissons que notre condition humaine nous rend esclaves du péché et que l'œuvre de Jésus sur la croix nous purifie de cet état initial, nous pouvons devenir enfants de Dieu comme il est écrit dans la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Et dans Jean 1, à propos de Jésus, lumière du monde, au verset 12, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Par la nouvelle naissance, lorsque nous confessons notre foi, nous devenons enfants de Dieu et par conséquent, nous participons à sa divinité. Jésus, Dieu, le Fils de Dieu, n'était pas Zeus ou Jupiter. Nos pensées sont souvent polluées par nos influences gréco-romaines. Participer de la divinité de Jésus ne nous donne pas le pouvoir de régler nos petites affaires du quotidien liées à notre condition humaine. Participer de la divinité de Jésus, c'est devenir son disciple, se mettre au service du prochain, promouvoir les valeurs du royaume de Dieu, faire preuve d'amour du prochain, y compris l'amour pour nos ennemis, pour les marginaux de tous horizons, et d'être fidèle au projet de Dieu. Même si cette fidélité nous amène à la persécution et même si la mort injuste et scandaleuse met un terme à notre existence terrestre. On est loin d'un Zeus qui joue avec son entourage pour son propre plaisir. Je crois en l'Esprit Saint. Sans plus de détails, une certaine sobriété. L'Esprit, le souffle de Dieu, existe dès l'origine. C'est le souffle de vie. L'Esprit n'est pas une nouvelle entité, mais Jésus l'annonce dans Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le jour de la Pentecôte, dès le matin sur l'ensemble des disciples, l'Esprit est envoyé de manière spectaculaire et le pardon des péchés, le salut en Jésus-Christ, la venue du royaume de Dieu peut être proclamée dans toutes les langues. L'Esprit Saint équipe et fortifie l'Église en venant au secours de la faiblesse des croyants. Au nom de l'Esprit Saint, beaucoup d'abus et de dérives apparaissent dans l'histoire des croyants. Lorsque l'individu se sent inspiré par l'esprit et s'éloigne de l'enseignement biblique, cela mène toujours à la catastrophe. La norme, la référence, c'est le plan de Dieu pour la restauration de sa création. C'est l'enseignement et l'exemple de Jésus raconté dans les évangiles. Ce n'est pas l'inspiration du moment qui nous donne l'autorité sur nos prochains. C'est en nous imprégnant de ces réalités écrites dans la Bible et donc réelles et palpables que l'Esprit Saint nous aide à saisir, comprendre des notions qui restent quand même empreintes de mystère. Je crois en l'Esprit Saint, celui qui fait partie de ce Dieu trinitaire dès l'origine et qui est en relation constante avec le Père et le Fils. Dieu créateur, Jésus Fils de Dieu, Esprit Saint, une même entité qui se révèle au travers de la parole de Dieu à laquelle notre foi se réfère. Pour conclure, je vais vous dire quand même les trois articles de la confession de foi donc qui a été mis à jour en 2014 et qui a été adopté par les délégués de nos églises mennonites en France. Et donc c'est sur Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Pour Dieu, nous croyons en un seul Dieu qui accueille favorablement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Nous adorons le Dieu saint et unique, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, pour l'éternité. Nous croyons que Dieu a créé toutes choses visibles et invisibles par Jésus-Christ. Il propose salut et vie nouvelle à tout homme, fortifie aujourd'hui l'Église et soutient toutes choses jusqu'à la fin des temps. Pour Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ, la parole de Dieu incarné. Il est le sauveur du monde qui nous a délivrés de la domination du péché. Il nous a réconciliés avec Dieu en s'humiliant lui-même et en se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il a été reconnu fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Il est le chef de l'Église, le Seigneur exalté, l'agneau immolé qui reviendra pour régner avec Dieu dans la gloire. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Nous croyons au Saint-Esprit, l'Esprit éternel de Dieu qui demeure en Jésus-Christ. Troisième personne de la Trinité, il est un avec le Père et le Fils. Il équipe et fortifie l'Église en venant au secours de la faiblesse des croyants. Il est la source de notre existence dans le Christ, répandu sur tous ceux qui croient. Il est le garant de notre rédemption et de celle de la création. La confession de foi, c'est un petit livre, si quelqu'un est intéressé, il y en a qui est à disposition ici. Il y a toutes sortes de références bibliques pour étayer la réflexion. Voilà. Mais voilà, ça a été mis à jour récemment. Il y a des commentaires qui sont plutôt des commentaires d'actualité et qui permettent de comprendre ces notions qui sont un petit peu théoriques et théologiques. Voilà. Merci pour votre attention. Et comme à l'habitude, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen.